L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres, un nouveau round de discussions entre la RDC et la FSAM 23. Demain, cette semaine à Doha, au Qatar, le point relatif à l'échange de prisonniers sera au cœur des discussions. Mais les affrontements entre les deux parties sur le terrain risquent de retarder les échéances, s'inquiète un analyste à Ebouteli, un institut congolais de recherche sur les questions des conflits. Le franc congolais connaît une appréciation spectaculaire sur le marché par rapport au dollar américain. Celle-ci est illusoire et temporaire, analyse le docteur Akilima Lindatabaye, un enseignant en sciences économiques à l'Université officielle de Bukavu. Pour lui, aucun indicateur macroéconomique ne justifie une telle appréciation, surtout qu'elle n'entraîne en rien l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. En sport, clôture pour la RDC ce mardi de la phase des groupes des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique. Les Léopards accueillent les Soudans à Kinshasa à partir de 21h avec une seule option, gagner le match pour espérer obtenir le ticket du Mondial. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialo.
Plus de 35 maisons sont parties en fumée dans la journée de lundi 13 octobre 2025 sur les avenues Kishangi et Muigwa, quartier Chahi, dans la commune de Bagira. À en croire Chukuru Luekia, président de la société civile dans le quartier Chahi, au moins 16 autres maisons ont été détruites pour limiter la propagation du feu. Tout en saluant l'intervention des jeunes et autres habitants qui se sont mobilisés pour éteindre les flammes, Chukuru Luekia indique que ce nouvel incendie vient de laisser plusieurs familles sans abri et moyens de subsistance car ayant perdu leurs biens. Il appelle les personnes de bonne volonté et les autorités à venir en aide à ces populations qui passent désormais la nuit à la belle étoile. Le président de l'hôtel civil dans le quartier Chahi appelle également les habitants à demeurer vigilants pour éviter tout cas du genre qui pourrait arriver à la suite de l'imprudence, les mauvaises installations électriques ou encore la mauvaise utilisation des produits inflammables. Et le trafic des motos et autres engins a repris en début d'après-midi de lundi 13 octobre 2025 sur le tronçon routier allant de Miti-Centre dans le territoire de Kabare et Bunyakiri-Kalongé dans le territoire de Kalein. Ceci intervient après une journée tendue le dimanche 12 octobre marquée par des combats opposant les éléments Wazalendo aux troupes de la FSAM 23 dans plusieurs villages du groupement de Miti, à savoir Tchombo, Chibinda et vers Chivanga. Les précisions avec Omer Moudekereza.
Ces affrontements qui ont duré plusieurs heures ont obligé les troupes de l'AFC M23 à interdire toute circulation des motos et véhicules, visiblement pour permettre le bon déroulement des opérations dans la zone. Des sources sur place ont dit que des combattants Wazalendo ont débordé jusqu'à occuper durant quelques heures des entités à l'instar du centre de Kafourmaye, dans le village de Chibinda, à quelques kilomètres de Miti-Centre, avant que les troupes de l'AFC M23 ne s'y pointent également. C'est seulement après que les affrontements nourris à l'arme lourde vont reprendre jusqu'à provoquer une panique généralisée, même dans le village voisin du groupement des Bougouri. C'est lundi 13 octobre 2025. Les écoles, comme l'Institut Tchombo et l'école primaire Tchombo, n'ont pas ouvert leurs portes à la suite de la psychose qui régnait encore dans la zone. Alors qu'à l'Épée Rwabika et une autre école secondaire de la place, c'est seulement un petit nombre d'élèves qui s'est présenté. Des troupes de l'AFC M23 ont été visibles, faisant la ronde de tous ces villages, visiblement dans le souci de rechercher des éléments Wazalendo, ce qui a fait penser à des probables nouveaux combats dans la zone. Mais très vite, la situation est redevenue normale, donnant ainsi la possibilité aux autorités d'autoriser à nouveau la reprise des activités et de la circulation sur les tronçons Mitiombo-Bunyakiri. On dit qu'une source est sur place, un peu plus au sud de la ville de Bukavu, précisément à Nyangezi, dans le territoire de Walungu. La situation est calme, contrairement aux informations ayant circulé sur les réseaux sociaux. L'on rapporte quelques tirs qui ont été plutôt entendus vers le village d'Engali. Par contre, les activités activités commerciales, les écoles, les champs et le transport en commun entre Nyangezi, Kaziba et Bukavu se déroulent normalement, indique un responsable local contacté qui appelle la population de cette partie à ne pas se fier aux informations des réseaux sociaux qui peuvent enflammer toute l'entité.
Par ailleurs, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, condamné le 30 septembre à la peine de mort, a convoqué un conclave politique au Kenya. Plusieurs opposants ont été conviés et lui-même se trouve déjà sur place. Selon Jeune Afrique, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a convié plusieurs opposants pour une réunion censée débuter ce 14 octobre à Nairobi.
Et le gouvernement congolais et l'AFCM 23 ont débuté un nouveau round de discussions à Doha au Qatar le dimanche 12 octobre 2025, à une reprise qui s'inscrit dans le cadre des travaux de négociation du processus de paix à l'est de la RDC. En croire Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli, un institut congolais de recherche sur les questions des conflits et gouvernance, le point qui divise les deux parties jusqu'à maintenant, c'est l'échange des prisonniers. Selon lui, ce point n'évolue pas par manque de confiance de part et d'autre entre le gouvernement congolais et le mouvement de l'AFCM 23. Néanmoins, Pacifique Mayala dit craindre les accrochages qui ne cessent d'éclater entre les deux parties sur terrain, ce qui laisse croire que le processus en cours n'aboutira pas à une résolution pacifique du conflit. Pacifique Mayala en parle dans cet élément.
Alors que les parties ont reconvenu pour un nouveau round de discussion à Doha, l'une des questions qui continue de diviser les parties, c'est entre autres les mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers considérés comme étant politiques de part et d'autre. Une mission qui a été jadis confiée par la médiation qatari à l'Organisation internationale de la Croix-Rouge, le CICR, qui a fait son premier rapport qui, tout porte à croire, sera présenté durant cette semaine aux parties en discussion. Néanmoins, il est à craindre, au vu de récents développements sur le terrain, les accrochages qui ne cessent d'éclater entre ces deux mêmes différentes parties portent à croire que les processus en cours ne servent que de prétexte pour se payer le temps et mieux s'organiser dans l'optique à pouvoir compter sur une logique militaire.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Nous changeons de chapitre à présent. L'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain tel que constaté actuellement est illusoire et de courte durée parce qu'aucun paramètre macroéconomique réaliste ne le justifie. Telle est la pensée d'Akilima Linda Tabaye, docteur en sciences économiques et enseignant à l'université officielle de Bukavu, Yobe. Ce dernier estime que pour atteindre la baisse du taux d'échange, la Banque centrale du Congo aurait procédé à l'adjudication qui implique pour cette institution d'injecter plus de dollars dans les économie afin de réduire la quantité des francs congolais. Cela ne va pas durer longtemps parce que la BCC pourrait manquer des devises à injecter considérant qu'elle doit garder des réserves d'échange, précise notre source. Akilima Linda Tabaye indique que l'appréciation actuelle du franc congolais est nominale et se limite uniquement sur papier. Pourtant, la bonne appréciation implique l'amélioration du pouvoir d'achat. En vue d'atteindre une appréciation positive du franc congolais, il y a lieu d'améliorer le volume de la production interne, insiste notre source. Le docteur en sciences économiques, Akilima Linda Tabaye, en parle.
L'appréciation du franc congolais par rapport au dollar ne va pas durer parce que à un moment, la Banque centrale du Congo n'aura plus de devises à injecter parce qu'elle doit avoir des réserves d'échange et à un moment, ces réserves d'échange peuvent être épuisées. Ce que semble oublier notre gouvernement, c'est que les taux d'échange est une question d'ordre structurel et essentiellement lié au volume de production. Si nous voulons améliorer la parité du franc congolais pour que cela profite à la population, nous devrions produire davantage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas quel autre agrégat macroéconomique s'est amélioré pour que la Banque centrale du Congo nous laisse artificiellement croire que le franc congolais a augmenté de parité par rapport au dollar. Est-ce que le PIB a augmenté de combien? Et dans une proportion qui pourrait permettre de justifier la récente amélioration de la parité du franc congolais. Alors, si vous regardez bien aujourd'hui, nous assistons finalement à ce que quelqu'un d'averti pourrait appeler appréciation nominale du franc congolais. C'est-à-dire, c'est une illusion de stabilité ou d'appréciation de la monnaie locale. Et ce n'est pas cela qui intéresse la population. La population a besoin d'une appréciation réelle du franc congolais, c'est-à-dire une augmentation du pouvoir d'achat du franc congolais. Si hier, je pouvais me procurer 4 bières de prémices avec 40 000 francs congolais, par exemple, j'aurais aimé qu'avec les mêmes 40 000 francs congolais, je sois capable de me procurer même 6 bouteilles de prémices. C'est vraiment ça qui intéresse la population.
Et les habitants du quartier Ndendere et ceux des avenues Kibombo, la Voie du Congo 1 et 2, ainsi que 3 sont appelés à s'organiser pour faire face à l'insécurité qui sévit dans leur environnement. Cet appel est de Albert Migabonyagaza, chef de quartier Ndendere, dans un entretien accordé à Radio Mandela. Il fait savoir que de nombreux incidents sécuritaires ont été enregistrés dans ces zones, notamment en soirée perturbant la quiétude des résidents. Selon lui, des individus non identifiés armés des machettes, couteaux et autres armes blanches s'en prennent régulièrement aux citoyens. Il salue cependant l'appui de l'armée et l'engagement de la jeunesse locale qui ont permis d'appréhender certains malfaiteurs. Albert Migab encourage ainsi les populations concernées à renforcer leur vigilance et à mettre en place des actions concertées de sécurité communautaire tout en assurant un suivi rigoureux de leur efficacité. Il en parle.
Les avenues Kibombo dans la concession de l'église kimbanguiste, les avenues de la voie première 2-3 rendent les quartiers Ndendere instables sur les plans sécuritaires. Sur ces avenues, les personnes non identifiées, en armes, machettes, marteaux, planches avec des clous, tracassent les paisibles citoyens, raison pour laquelle nous demandons en particulier la jeunesse de rendre leurs actions sécuritaires évaluatives, nous dire d'une manière claire combien de malfrats qu'ils ont déjà attrapé et arrêté en collaboration avec le service de sécurité qui est disponible. Combien de réunions de sécurité tenues dans leurs avenues pour aborder d'une manière cohérente la question de sécurité et de prévention. Nous avons tellement besoin des actes qui parlent, nous n'avons pas tellement besoin des discours de détresse, des larmes, les gens qui ne veulent pas travailler pour mettre la main sur les gens qui nous insécurisent.
Albert Migabonyagaza, chef de quartier Ndendere, en commune d'Ibanda. Et la société civile Sounoyo de Momosho, en territoire de Kabare, alerte sur des cas de délinquance juvénile devenus récurrents dans cette partie du territoire de Kabare. Cette situation s'explique par des mouvements intenses, des va-et-vient, des élèves en uniforme à bord des tricycles d'Ibadjad, en direction de l'hôpital général des références de Nyantende. Explication Alain Kabika.
Après un suivi minutieux, indique la société civile de Momosho, il a été constaté que ces élèves ne se rendent pas à l'hôpital, mais plutôt vers les stades de Bukavu à Nyantende prétendument pour des visites. Pour André Chizungu, ces élèves s'absentent au cours non pas pour des visites au stade de Bukavu à Nyantende, mais pour s'adonner aux mauvaises pratiques telles que la consommation des boissons fortement alcoolisées, fumer du chanvre et à des pratiques sexuelles. Le cas le plus récent est celui d'une fillette de la 8e année âgée de 15 ans et élève à l'Institut Tolérance Moulamba Buhozi qui a été appréhendée en direction de ces lieux. Voulant mettre la main sur son partenaire, conducteur de taxi-moto de son état, celui-ci a pris fuite vers une destination inconnue, déplore la société civile Sounoyo de Momosho. Suite à cette situation, cette structure citoyenne demande aux autorités à tous les niveaux à prendre des mesures punitives contre les conducteurs des tricycles d'Ibadjadjistes et ces adolescentes qui abandonnent les cours pour des futilités. Aux parents de bien surveiller les mouvements de leurs enfants chaque matin et s'assurer que ces derniers sont bien arrivés au cours pour prévenir des conséquences qui peuvent découler de cette pratique.
Et les filles de Bouniakiri en territoire de Calais continuent de subir des violences, des viols, de la discrimination et un manque cruel d'accès à l'information sur la santé reproductive. Cette observation est du club des filles reporters de Bouniakiri à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille. Au total, 167 filles venues de différentes écoles de la zone de santé de Bouniakiri ont pris part à cette activité célébrée sous le thème local « Ma santé, mon droit, protéger la fille, c'est construire demain ». La représentante du club des filles reporters de Bouniakiri, Ishara Bialou Arcangela, a dressé un tableau alarmant des conditions des filles dans le milieu. Elle a également pointé du doigt le manque d'intervention humanitaire spécifique sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents dans la zone de santé de Bouniakiri. On l'écoute.
Voulons élever nos voix pour dire que nous avons des droits. Les droits de vivre la paix, de grandir sa violence, d'aller à l'école sans père, de rêver, de choisir, de vivre dignement. Trop souvent, dans les interventions humanitaires, la fille est oubliée. On ne pense pas à nos besoins spécifiques, on ne nous consulte pas, on ne nous équipe pas. Pourtant, nous existons, nous souffrons, mais nous résistons. Nous voulons que cela change. Nous demandons à être considérés, respectés, protégés. Nous réclamons notre droit à la paix parce que nous en avons assez de vivre dans l'insécurité et le silence.
De son côté, Simon Weteshi Miona, responsable du club, a rappelé que la jeune fille a droit à la santé, à la considération et à la sécurité. Il est temps que les humanitaires intègrent la santé reproductive dans leurs interventions. À Bouniakiri, insiste-t-il, cette activité a consacré aussi la distribution des kits hygiéniques à toutes les participantes. Chaque fille a reçu un kit composé, entre autres, du savon et des serviettes hygiéniques lavables, fabriquées par les filles reporters elles-mêmes dans leur atelier. Et la presse congolaise se souvient aujourd'hui de Solange Lusiku Simire, une figure du journalisme, symbole de courage et de liberté dont le décès est survenu le 13 octobre 2018. Directrice du journal Le Souverain Libre durant plusieurs années, Solange Lusiku est présentée comme une femme de conviction qui continue d'inspirer de nombreux journalistes à travers le pays. En ce lundi 13 octobre 2025, sa famille, ses collègues du journal Le Souverain Libre et ses amis commémorent son retour auprès du créateur. Les journalistes du journal Le Souverain disent se souvenir d'un modèle d'engagement pour la justice, la paix et la dignité humaine. Son combat pour une presse libre et une société plus équitable demeure vivant dans le cœur et dans les esprits, précise la directrice du journal Le Souverain Libre, Claudine Lumvi, qui en parle dans cet élément.
Samedi le 13 octobre 2018, lundi le 13 octobre 2025, c'est un clin d'œil à Solange Lusiku Simire. Une vie qui s'en est allée, des vies qui en sont nées et s'en régalent. Cela fait exactement 7 ans depuis que le Très-Haut la rappela auprès de lui. Mais elle demeure à jamais dans nos cœurs, dans la ligne éditoriale de notre travail en tant que journaliste du Souverain Libre. Aujourd'hui, nous commémorons donc le retour d'une grande dame auprès du créateur, une journaliste hors pair, une femme de culture avérée, une personne exceptionnelle qui resta à jamais ancrée dans la mémoire de sa famille restreinte, élargie, la presse en République démocratique du Congo et d'ailleurs, ainsi que celle des amis et connaissances qu'elle fréquentait de son vivant.
Claudine Lumvi, directrice et éditrice du journal Le Souverain. Et avec vous, Myriam Moufano, avant donc la deuxième partie de ce radio-journal, 22 personnalités, parmi lesquelles les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, les professeurs d'université, des promoteurs des initiatives des jeunes et des médecins ont été primés par l'organisation Bloc Citoyen à Mani le week-end dernier.
En croire le coordonnateur national de cette structure, Josué Assani, ces personnalités ont été choisies pour leurs efforts dans le rayonnement de leur secteur d'activité respective et ont servi de modèles pour d'autres dans un contexte particulier que traverse la République démocratique du Congo. Pour cette première édition de remise de ce diplôme dénommé Diplôme d'honneur Congo Peace Honors, 22 personnalités ont été sélectionnées sur base de critères bien précis. On écoute Josué Assani, coordonnateur national du Bloc Citoyen à Mali, qui explique le bien fondé de cette initiative. associative.
Le point fondé de notre activité de séjour, dénommé Prix National Congo Peace Honors, ce n'est pas un acte de récompense pour certaines personnalités, mais c'est un acte de reconnaissance de certaines valeurs de paix et de développement communautaire qu'incarnent certaines personnalités de la province ici de Kivu, de la ville-province de Kinshasa, parce que les lauréats que nous avons sélectionnés ne sont pas seulement de la ville de Bukavu, mais partout ailleurs dans les territoires nationaux congolais. Bien sûr, elles ne sont pas les seules à avoir des valeurs dans notre pays, mais pour notre première édition, comme toute chose a un commencement, il faudrait sélectionner une catégorie déjà.
Parmi les lauréats figurent le vice-président du bureau des coordinations de la société civile du Sud Kivu, Sami Jean Takimbula, le professeur Philippe Kachunga, Adolphe Kilumba et Philippe Doudou Kaganda, ainsi que d'autres acteurs comme Maître Papi Kajabika et Johnson Seti Bafunyembaka. Pour Sami Jean Takimbula, ce diplôme d'honneur est une marque de reconnaissance du travail fait depuis de longues années. Il promet de poursuivre sur la même lancée et appelle les habitants à plus de résilience. On l'écoute.
Me sélectionnant comme lauréat, on m'a titré ambassadeur de proximité et de justice sociale. Pour moi, c'est un ouf de soulagement par rapport aux engagements. Ce diplôme n'est pas pour moi. C'est un diplôme de la population du site qui vaut tout entier. C'est un diplôme des victimes et des atrocités, des victimes de barbarie humaine, des victimes de tout genre, parce qu'ils m'avaient confié la mission de leur défendre, ils m'avaient confié la mission de plaider pour eux, de dénoncer même ce qui n'est pas normal. Et nous le faisons à bon escient. C'est pourquoi nous avons eu le mérite aujourd'hui de ce diplôme.
Précisons que la cérémonie s'est tenue dans la salle de l'hôtel Monkaouzi en commune du Banda.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La République démocratique du Congo clôture ce mardi 14 octobre la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. À cet effet, les Léopards vont recevoir le Soudan dans le cadre de la 10e et dernière journée. Ce match est prévu au stade de Martyrs de la Pentecôte. La rencontre se disputera sans Noah Sadiki, victime d'une entorse à la cheville. Il a déjà regagné son club Sunderland en Angleterre pour y poursuivre les soins. En conférence de presse d'avant-match ce lundi, Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, a déclaré, je cite, « Il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible. » Fin des citations, a déclaré le technicien français. Dans la course à la qualification, les Léopards doivent impérativement s'imposer et attendre deux options envisageables. La première implique une défaite du Sénégal face à la Mauritanie qui donnera un ticket direct à la RDC pour la Coupe du Monde, une option peu envisageable. La deuxième option veut que la RDC finisse parmi les quatre meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages. Actuellement, la RDC figure sur la liste des meilleurs deuxièmes, mais il faudra surveiller de plus près les résultats de la dernière journée, considérant que ceux avec les derniers des groupes ne seront pas considérés suite au retrait de l'Érythrée. Cette disposition a fragilisé les Léopards qui doivent lutter pour l'une des places qualificatives en surveillant le nombre de buts, le goal average et consorts. Quel que soit le contexte, l'idée pour la RDC est de finir par une victoire en attendant les autres implications conjoncturelles. Il s'est de préciser que ce match est prévu à partir de 21h, heure de Bukavu.
La revue de presse. Radio Maïndeleu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La revue de presse avec vous, Hélène Boudjiriri.
La baisse du taux d'échange annoncée par le gouvernement congolais en collaboration avec la Banque centrale du Congo provoque depuis quelques jours une forte instabilité économique à Bukavu, écrit la Prunelle RDC avant d'ajouter université, structure sanitaire, cambistes et commerçants affichent désormais des taux différents, créant un véritable désordre dans les transactions financières. Des témoignages recueillis par ces médias expliquent que la ville tente de se conformer à la décision initiée à Kinshasa où certaines banques ont réduit leur taux d'échange avant d'être suivi par les opérateurs de télécommunications. Imaginez, on est passé de 2900 francs à 2740 francs, puis à 2650 et maintenant à 2450 francs congolais. Beaucoup de gens ont converti leurs francs congolais en dollars américains, ce qui a provoqué une rareté de la monnaie locale, explique un habitant. Selon lui, la fermeture des banques accentue la crise car les nouveaux billets ne circulent pas suffisamment pour soutenir l'économie provinciale. Un autre cambiste qui a requis l'anonymat parle d'un désordre total dans la fixation du taux. Pour nous cambistes, les taux est de 2500 francs congolais. Carme Mertel, Orange Vodacom ne dépasse pas ces montants, mais chez les commerçants, ils montent à 2700 francs congolais, voire 3000 francs congolais, affirmait-il au micro de la Prunelle. Par ailleurs, certains habitants dénonce le fait que des institutions universitaires et sanitaires continuent d'appliquer les taux élevés entre 3100 et 3200 francs congolais sans tenir compte des réalités économiques actuelles et malgré la fermeture des banques. Sur un autre sujet, la référence plus parle du fait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ait jugé utile de revenir sur sa main tendue à son homologue rwandais Paul Kagame. Pour le président de la République, signale ce quotidien, son geste envers son homologue rwandais avait une haute portée diplomatique, certainement mal interprétée par certains compatriotes. Repris dans les colonnes du Phare, Félix Tshisekedi déclare « Nous avons réussi à démasquer évidemment ce qui se cachait derrière des manipulations. Je sais que cela a troublé. Je ne tiens pas compte de ce qui est sorti. Je sais qu'ils vont réfléchir et vont me faire une offre. Et c'est ce que j'attends. Croyez-moi, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. » Selon le quotidien, la démarche de Félix Tshisekedi s'inscrit dans la continuité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui impose une responsabilité partagée à la RDC et au Rwanda dans la restauration de la paix. Ces textes rappellent ces portails, invitent les deux pays à coopérer dans le cadre des mécanismes multilatéraux établis plutôt qu'à s'affronter sur les terrains militaires. Au-delà des enjeux géopolitiques, rapportent les potentiels, la rencontre avec la diaspora congolaise de Belgique a été l'occasion pour Félix Tshisekedi à inviter la diaspora à ne pas se laisser distraire par les discours négatifs et à rester mobilisée autour des causes nationales.
Par ici prend fin ce Radio Journal. Jean-Claude Ndagui assurait la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.